Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de rester fidèles sur Radio de la Paix. Bienvenue à cette première édition. Santé, nous parlerons des cas d'intoxication alimentaire survenus récemment à Papekou, près de Gagnoa, où une personne est décédée. L'Institut national d'hygiène publique à Trècheville a fait un point presse hier pour faire le bilan de ses actions quant à cette intoxication, voilà, mais surtout sensibiliser les populations. Sur le continent, l'ONU adopte une résolution pour le suivi du conflit qui a fait plusieurs morts depuis près de 3 semaines. Et puis la revue des titres de vos journaux parue ce vendredi sera l'affaire de Didier Blé aujourd'hui. Et en fin d'édition, après la titraille de vos quotidiens, nous aurons le professeur Bamba Abdoulaye comme invité de la rédaction. Il se prononcera sur la récente visite du président gambien en Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour nos grandes lignes. Bonjour à tous. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan, tourne à plein régime. Elle vient de tenir son premier conseil d'administration, en marge duquel on a procédé également à la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment et un appel à plus de participation des autres États africains a été lancé. Le compte rendu est signé Mata Touré.
La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est née d'une initiative franco-ivoirienne portée en 2017. Elle vise à développer les capacités des États de la sous-région à apporter une réponse globale à la menace terroriste, financée dans une première phase à hauteur de 15 milliards de francs CFA. On en est désormais à la phase 2. Une pose de première pierre d'un édifice supplémentaire a ponctué le premier conseil d'administration de l'Académie, où la Côte d'Ivoire est pour l'heure le seul pays africain assiégé, Tene Birahima Ouattara, ministre ivoirien de la Défense.
Nous avons le souci de procéder à la réalisation de la deuxième phase. Et pour ce faire, au mois de juillet l'année dernière, il s'est tenu à Paris une conférence pour la mobilisation de fonds pour cette deuxième phase. La moisson a été fructueuse, d'autant plus que l'Union européenne s'est engagée à contribuer pour une dizaine de millions d'euros pour la deuxième phase.
À son tour, Chrysola Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie et des partenaires internationaux, est revenue sur l'importance cruciale du travail effectué dans cette académie.
Plus de 1000 stagiaires et auditeurs venus d'une trentaine de pays d'Afrique ont déjà bénéficié des formations dispensées ici. Militaires, policiers, magistrats, personnel de l'administration pénitentiaire ou des douanes, je mesure à quel point la lutte contre le terrorisme est au cœur de vos préoccupations.
Un appel a été lancé aux pays de la sous-région pour leur participation plus accrue pour un projet qui les concerne au plus haut point et qui, somme toute, est d'abord le leur.
Merci à vous, Mata Touré. Et puis, toute modification de la loi de 1998 sur la terre en zone rurale doit se faire par une voie impliquant le peuple et non par le gouvernement. Et nous attendons aussi des discussions sur le découpage électoral décrié par l'opposition, a déclaré le porte-parole du PPACI dans sa tribune d'hier jeudi 11 mai sur les thèmes découpage électoral et foncier rural. Le compte-rendu, Francis Cassi.
Aussi bien dans son exposé liminaire qu'après, dans ses réponses aux questions des journalistes, le porte-parole du PPACI, Kone Katina, a dit ceci concernant le découpage électoral.
Le découpage électoral, nous croyons qu'ils vont courir cette exil par une voie politique qui règle le problème de façon définitive. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'on rentre dans une situation de blocage. L'élection, ce n'est pas la pluie, ça ne surprend pas quelqu'un. C'est programmé. Quand vous leur posez la question, ils vous répondent non, le temps est court. Mais qui a rendu le temps court? S'ils veulent, ils peuvent. S'ils sont d'accord là, nous, on est prêts, on n'a qu'à reporter les quelques mois et puis on va faire vraiment.
Sur le foncier rural, Kone Katina a dû ne pas comprendre pourquoi c'est le gouvernement qui décide maintenant sur la question et non plus la loi de 1998.
La loi de 1998 consacre la reconnaissance des droits coutumiers comme source première de droits fonciers en zone rurale. Avant, toute la procédure était régie par la loi, donc débat législatif. Si on doit modifier, il faut renvoyer le débat à l'Assemblée. Non, ils ont buffé. Maintenant, ils ont dit, toutes ces procédures-là, ça se décrit maintenant en décret pris en Conseil des ministres. C'est-à-dire, c'est le président et son gouvernement qui décident maintenant de savoir comment disposer des terres en Côte d'Ivoire. Un gouvernement ne peut pas s'arroger le droit de se substituer au peuple en légiférant à sa place sur une affaire aussi sérieuse. Le PPAC réclame un débat démocratique et populaire sur le droit foncier rural.
Vu son importance, la question foncière doit préoccuper tous les partis politiques, a ainsi répondu le porte-parole du PPACI quand la presse lui a demandé est-ce que soulever le débat du foncier ne va pas encore enflammer.
Et puis, après la question foncière de frontières, et surtout les frontières ivoiriennes, il a été question le mardi 9 mai dernier à Abidjan. Invité de la tribune Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, Konaté Diakalida, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, a fait état de ce que la plupart des problèmes récurrents enregistrés dans les espaces frontaliers sont très souvent liés au défaut de matérialisation des frontières entre les différents pays. Cela dit, c'est quoi une frontière et que retenir des frontières entre la Côte d'Ivoire et ses voisins? Des éléments de réponse à ces questions avec Konaté Diakalida que nous écoutons.
Une frontière, c'est la limite du territoire d'un État et qui fait face à un autre État voisin qui est marqué au sol par des éléments comme des bornes ou par des limites naturelles, des fleuves ou une forêt. Alors la Côte d'Ivoire a 5 États frontaliers. Nous avons le Ghana, le Burkina Faso, nous avons le Mali, nous avons la Guinée et enfin le Libéria. Et puis bon, la façade maritime, nous avons le Golfe de Guinée, ce qui complète à 6, mais les États, il y en a 5. Les frontières de la Côte d'Ivoire sont pour la plupart non matérialisées. Nous avons seulement que des limites administratives entre les États ayant appartenu au même colonisateur. Donc la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée n'ont pas de limites conventionnelles arrêtées par un traité ou un accord, mais ces États-là ont des limites administratives et il appartient à la Commission nationale des frontières de procéder à leur délimitation, à leur démarcation, à travers un traité qui sera signé par les deux États. À côté de cette catégorie de frontières, nous avons les frontières avec le Ghana et le Libéria, qui sont des frontières que le colonisateur français a démarquées, a matérialisées avec l'ex-colonisateur britannique et avec l'État du Libéria. Donc ces frontières-là sont délimitées et démarquées.
Vous venez d'écouter Konaté Diakalida, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI. Nous le disions en titre, cas de toxi-infection alimentaire collectif abrégé TIAC d'une mère de 34 ans et ses 4 enfants âgés de 6 ans, des jumelles de 8 ans dont l'une est décédée par la suite et un autre de 19 ans survenu à Kwapeku, village situé à 17 km de Gagnoa, le vendredi 5 mai dernier. Un point de presse tenu hier jeudi 11 mai à l'Institut national d'hygiène publique à Trégeville. Et lors de cette rencontre, le directeur général de l'INHP, le professeur Béné Bivreau-Joseph, a annoncé qu'après une investigation sur les lieux, il ressort que cette toxi-infection est due à l'ingestion récente d'aliments ou d'eau contenant des bactéries, des parasites, des virus, des poisons et des métaux lourds. Écoutons professeur Béné Bivreau à ce sujet.
Parmi les 5 personnes, il y a une qui est décédée, mais les 4 autres vont bien. Ils sont actuellement à Miyagi. Il y a 2 qui sont sortis de l'hôpital. Il y a 2 qui arrivent à manger. Bientôt, pourront sortir de l'hôpital. Donc, la situation est sous contrôle. Au niveau du village, nous continuons l'investigation. Mais on sait que c'était l'aliment. Heureusement, il n'y a personne d'autre dans la communauté qui a mangé ce repas-là, qui est aujourd'hui malade. Il y avait un problème d'hygiène. Donc, chez nous, à la maison, il faut qu'on respecte les mesures d'hygiène. C'est-à-dire qu'on conserve les aliments dans de bonnes conditions et qu'on puisse laver nos ustensiles. parce que les rats, les souris viennent souvent les contaminer et ça peut être à l'origine de ces problèmes-là qu'on a connus. En dehors de ça, les populations doivent aussi se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Et je pense que c'est un geste simple qui sauve que nous devons continuer à respecter. L'autre élément, c'est les pesticides. Nos parents dans les villages utilisent souvent les pesticides, mais de façon abusive. Et ces populations ne prennent pas le soin d'éliminer les contenants de ces pesticides-là. Et on a vu des familles en train de préparer, de servir le repas dans les emballages qui ont servi pour les pesticides. Ça peut être à l'origine de ces décès-là. Donc, c'est cette sensibilisation que nous devons faire pour que également l'orpaillage, que nous puissions continuer à lutter contre ce phénomène qui aujourd'hui pollue aussi nos cours d'eau. Également, chacun, celui, doit pouvoir faire de l'assainissement dans son environnement immédiat pour ne pas s'exposer à ce problème.
À l'instant, le directeur général de l'INHP, professeur Beigné Bivreau-Joseph. Et puis, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, une rencontre d'échange avec les régions et districts, ainsi que le corps préfectoral, a été organisée le mercredi 10 mai dernier à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Ceci afin de clarifier le rôle des principaux acteurs dans la mise en œuvre de la phase 3 des programmes emploi et initiative jeunesse. Le compte-rendu de Carlos Condé.
Sur le bilan de la phase pilote, Dr Twali Herman du Bureau de coordination des programmes emploi.
Sur le PGDEC, on avait un district autonome, celui de Yamoussoukro, et 9 régions. Il y a eu 6 milliards de francs investis pour 9100 bénéficiaires. Et sur le CDD2, 5 nouvelles régions donc ont été rajoutées avec 8 milliards de francs pour 15 000 bénéficiaires.
Pour la généralisation, 33 collectivités territoriales sont les bénéficiaires. En leur nom, Dr Eugène Akaouélé, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, s'est prononcé.
En ce qui nous concerne, autorités locales, membres de l'ADCI, bénéficiaires de la mode, nous sommes résolument engagés à travailler en étroite collaboration avec les différentes parties.
Le corps préfectoral sera également impliqué dans la coordination sur le terrain de ces projets. En son nom, Koulibaly Siendou, préfet de Lagné-Bitiassa, a dit que...
Nous sommes totalement engagés par ce projet. Mais ce que nous voulons souhaiter, c'est qu'au niveau du département, il serait intéressant d'impliquer les préfets des départements.
Et c'est un ministre de la promotion de la jeunesse qui est reparti satisfait de cette rencontre, Mamadou Touré.
C'est une très belle réunion d'harmonisation. Nous avons beaucoup de jeunes en milieu rural qui ont aussi besoin donc, d'un encadrement, d'un accompagnement. Et ce sera le rôle des collectivités territoriales, notamment des conseils régionaux qui vont agir au nom de l'État, au nom du gouvernement.
Pour cette nouvelle phase, plus de 100 000 jeunes seront touchés en Côte d'Ivoire pour plus de 42 milliards de francs CFA.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, l'ONU renforce sa surveillance au Soudan, où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui a éclaté le 15 avril dernier a fait plus de 750 morts, 5 000 blessés, 700 000 déplacés et 150 000 réfugiés. Hier jeudi 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme OIHCR, principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. Avec ce texte, l'ONU lance un avertissement aux criminels. La résolution élargit les prérogatives du haut commissaire aux droits de l'homme et son expert sur le Soudan. Les deux hommes devront donc soumettre un rapport complet sur les abus commis. Le tout sera suivi d'un dialogue élargi à d'autres parties comme l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD ou encore la Ligue arabe. Et je vous le disais également en titre, la revue des titres de vos journaux parue ce vendredi est l'affaire de Didier Blé. Nous l'accueillons. Bonjour Didier Blé.
Bonjour Linda. Bonjour à tous. Les sujets traités ce vendredi dans nos différents journaux sont multiples et différents d'un journal à un autre. Mais il y a tout de même un point de convergence, notamment le grand nettoyage relatif au déguerpissement des zones à risque, mais aussi la remobilisation dans les quartiers généraux des partis politiques, justement à 4 mois des élections locales. Concernant le déguerpissement des populations dans les zones à risque, Fratmat, Barassa 1 en manchette, saison des pluies, déguerpissement, le grand nettoyage, citant plus bas le ministre Boaké Fofana, de l'assainissement et de la salubrité qui prolonge la volonté du gouvernement Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Le ministre Boaké Fofana, cité à nouveau par le quotidien L'Intelligent d'Abidjan, ces termes. Le gouvernement ne veut plus de morts. Opération d'éguerpissement de gré ou de force des populations lancée ce 11 mai par le ministre Boaké Fofana. L'expression écrit « la saison des pluies pointe déjà du nez » et revient sur cette opération d'anticipation à travers le titre « Prévention des inondations, destruction des zones à risque ». Le gouvernement déploie les bulldozers. Autre chose dans cette revue des titres, Linda, chez le mandat, on s'intéresse à une mise en garde plus accrue du secrétaire exécutif du RHDP aux réfractaires et à leurs parrains. Le RHDP prend des décisions fermes, c'est ce qu'on peut lire donc à la une du journal, qui revient également sur la nomination de Thiam, écrivant nomination au bureau politique Bédié Mintijan Thiam sur Orbite. Parlons rapidement de la culture avec la 13e édition du SILA et la décentralisation qui était au cœur d'un panel qui a vu la participation du président du Sénat et de l'ex-président Simone Yves Gbagbo. On peut lire donc à la une de journal « Problèmes de décentralisation, les problèmes de décentralisation ne sont pas réglés ». C'est ce qu'on peut lire à la une du Nouveau Réveil.
Merci à vous Didier Blé pour cette titraille. Je rappelle que vous serez encore des nôtres pour l'édition de 8h pour le même exercice. Dernier temps fort de cette édition, c'est l'invité de la rédaction. Il est maître de conférences en relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Bamba Abdoulaye revient sur des aspects précis de la visite de travail et d'amitié à Abidjan du président de la République de Gambie, Adama Barrow. C'était au terme de la conférence de presse qu'il a animée avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. L'entretien est conduit par Marthe Kakou.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, madame.
La Côte d'Ivoire et la Gambie sont deux États de l'Afrique de l'Ouest. Le premier est francophone et le second anglophone. Existe-t-il une anecdote de leur relation? Si oui, laquelle?
Alors, cette histoire est relative à la période coloniale. Vous savez que quand vous prenez la géographie du Sénégal et de la Gambie est un pays intégré pratiquement au Sénégal. Et pendant la période coloniale, il a failli avoir échange entre le colonisateur français et le colonisateur anglais en ce qui concerne déjà les deux colonies. La Gambie était convoitée par la France et en échange, la France devait donner la colonie de la Côte d'Ivoire à l'Angleterre.
Des indépendances des années 60 à ce jour, au plan politique et diplomatique, comment se porte la coopération entre ces deux pays?
Il faut dire que jusqu'à la crise ivoirienne, de façon globale, les relations de la Côte d'Ivoire et la Gambie étaient relativement stables. Avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue, l'ancien président gambien, Yaya Diame, s'était inscrit dans une dynamique de critique à l'endroit du président Ouattara, ce qui a fait que pendant quelques années, les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe. Mais l'actuel président, lui, quand il est arrivé, a essayé plutôt une politique de rapprochement entre Abidjan et la Gambie. Du coup, on dira que les choses se sont plus ou moins stabilisées. Les 20 dernières années, il n'y avait plus de président gambien qui est venu en Côte d'Ivoire. Et donc, l'arrivée d'Adama Barrow vient donc renouveler cette dynamique de visite de coopération entre les deux pays. Et sa visite en Côte d'Ivoire avec la signature de ces accords vient donc confirmer la bonne santé des relations entre les deux capitales.
Justement, la Gambie et la Côte d'Ivoire ont donc décidé de renforcer leurs relations, de les consolider. Au plan économique et sur les axes de coopération possibles, trois grands secteurs ont fait l'objet de signatures d'accords. Quelles pourraient être les retombées pour ces deux États?
Il y a essentiellement trois points qu'on peut retenir des conventions. Dans le domaine aérien, au niveau également énergétique, et un cadre général de coopération a été établi entre les deux pays. Au niveau aérien, c'est l'utilisation de l'espace des deux pays et également des aéroports de façon mutuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la question du réchauffement climatique et de la pollution, la tendance est d'aller vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et donc, les deux pays prennent déjà une longueur d'avance en essayant de creuser cette piste pour renforcer les relations dans ce domaine. De façon générale, je dirais que ces trois accords de coopération viennent donc confirmer la bonne santé des relations entre les deux hommes d'abord qui dirigent ces deux pays et naturellement entre les deux pays. Après quelques périodes de nuages, cette visite marque un point de départ dans la coopération économique, politique entre les deux pays. Et je ne peux qu'approuver cela, moi qui suis pour le renforcement de la coopération sud-sud. La question du djihadisme au Mali, au Burkina Faso, les questions relatives au coup d'État en Guinée et au Burkina Faso également ont fait l'objet d'une convergence de points de vue entre les deux pays et les deux hommes. En termes de bilan, c'est un rapprochement entre les deux pays qui va se renforcer dans les mois et les années à venir et je pense que c'est au grand bonheur des deux peuples.
Les deux présidents, Adama Barrow et Alassane Ouattara, lors du point de presse qu'ils ont animé, ils ont insisté sur les élections démocratiques dans certains pays de la sous-région, de la CEDEAO, tels que le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone. Quelle analyse faites-vous?
D'abord, retenez que les deux pays sont membres de la CEDEAO. Et quand un membre de la CEDEAO se trouve dans une situation d'instabilité, cela touche naturellement les autres voisins. Et quand vous prenez la géographie de la Gambie, les élections à venir au Sénégal peuvent être source d'inquiétude pour la Gambie, qui est pratiquement intégrée au Sénégal. Donc les deux présidents abordent ces questions et essaient de trouver des pistes de solutions qui rentrent totalement dans la dynamique de la solidarité sous-régionale au sein de la CEDEAO. Prenez la carte de la sous-région, vous verrez que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Libéria, qui fait frontière avec la Sierra Leone. La Gambie fait frontière avec le Sénégal. Donc nous sommes liés par la géographie et par l'histoire. Et donc quand vous avez ce genre de situation, généralement en Afrique, vous savez que l'approche des élections, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de passion qui débouchent très souvent sur des violences. Et naturellement, quand vous êtes frontalier avec ce pays, vous vous sentez concerné par ces questions. C'est la même famille sous-régionale et il est bon d'aider ces pays à traverser cette période électorale-là dans la tranquillité pour le grand bonheur de toute la sous-région.
Sans oublier que le Libéria et la Sierra Leone sont deux pays qui ont connu la guerre.
Absolument. La Côte d'Ivoire aussi a connu la guerre. Donc tout le monde est conscient maintenant que des élections apaisées, transparentes, sont synonymes de stabilité, de développement et d'écriture et pour le pays, et pour les voisins, et pour la sous-région.
Professeur Bamba Abdoulaye, je vous dis merci.
Merci beaucoup, madame, et à très bientôt.
C'était l'invité de la rédaction, maître de conférence en relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Bamba Abdoulaye était avec Marthe Kakou. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Santé, nous avons parlé de cas d'intoxication alimentaire survenus récemment à Kpapékou, près de Gagnoa, où une personne est décédée. L'Institut national d'hygiène publique à Trècheville a fait un point presse hier pour faire le bilan de ses actions, mais surtout sensibiliser les populations. Et puis sur le continent, l'ONU adopte une résolution pour le suivi du conflit au Soudan. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.